Grenouille.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h, vous êtes sur Radio Panique 105.4 avec les Quenouilles. Nous ne sommes pas une, ni deux, ni trois, mais bien six ce soir. Donc autant vous dire qu'on se sert un petit peu. On est dans notre petite terrie. Ce qui nous amène à évoquer le magnifique mot sur lequel nous allons danser ce soir. Le mot de renard.
De.
Renarde, effectivement. Donc nous avons Quenouille Milady, Quenouille Roxane, Quenouille Valentine, Quenouille Aliette. J'allais dire Quenouille Delphine, j'aurais dû commencer ou terminer par moi, mais nous avons une petite nouvelle Quenouille ce soir, Quenouille Potamant Rouge, qui va contribuer à notre belle émission. C'est plus un renardeau, c'est une vraie renarde, hein, ouais. Il faut le dire quand même. Donc, je peux vous dire que quand on a tiré ce mot-là dans le dictionnaire l'été dernier, on était toutes, mais vraiment super excitées, parce qu'on trouve que c'est un riche terreau que ce mot, un beau terrier pour y déposer nos mots. Et avant de laisser libre cours à l'ami Goupil, parce qu'on va pas mal lui laisser libre cours ce soir, comme au roman de Renard, hein, notre ami si proche et pourtant sauvage, si familier, hein, il faut pas oublier que le renard et la renarde sont des canidés, comme notre ami le chien, ça va nous renvoyer à pas mal de choses aussi sur l'apprivoisement ou la domestication entre guillemets, d'une sauvagerie originelle. Et on le sait, tour à tour, farceur, farouche, complice, conspué, objet de narration flamboyante, affublé de l'étiquette de nuisible. Bref, je pense qu'on va vous concocter un joli petit truc pour ce soir. Donc, petite définition de notre animal, et je parlais en particulier du renard roux, hein, vulpes vulpes. Il n'est pas inféodé à un type particulier de biotope, on le rencontre un peu partout dans les milieux naturels les plus divers. Côtes, régions boisées, landes, montagnes, déserts. Dans nos régions, ce mammifère est présent aussi bien en milieu ouvert et semi-ouvert qu'en milieu fermé. Mais il marque une préférence pour les régions de bocage, lisières, taillis, haies, petits bois enclavés, terrains agricoles. Il est considéré comme rural, mais il est devenu, en quelques décennies, un hôte de plus en plus familier des villes et surtout de leurs banlieues. Et ça me permettra de rebondir sur ce que va évoquer Quenouille Valentine plus tard, sur cette idée de nuisible. En attendant, j'aimerais juste souligner ce lien qui va se tisser pour ce soir, je crois. Le déploiement du renard et de ses significations est fort lié au nôtre. Voilà, je vous posterai l'étude qui a été dressée par actuellement Sciences-Anno, qui s'appelait encore en 2003 à l'heure de cette enquête, l'Institut scientifique de santé publique, qui a essayé de déconstruire un petit peu tous les a priori autour de ce renard et d'en faire le recensement aussi de cette population grandissante. Je vais vous amener à ouvrir vos oreilles et à écouter quelque chose du coup qui vous parle sans doute. C'est un grand homme et qui parle d'une petite renarde malicieuse. Jimi Hendrix, Foxy Lady pour vous.
I see you on
soleil.
Alors moi, je voudrais, moi c'est que Noé Mélédie, je vais m'annoncer toute seule. Pas au mot renard, mais au corps renard, m'est venu un mot à la fois familier et désirable, c'est-à-dire que très souvent j'aimerais être le mot que je vais dire, c'est-à-dire désinvolte. Et il s'avère que le mot désinvolture et renard, pour moi, c'est vraiment une alliance de l'imaginaire et de la symbolique. Alors j'ai tiré sur le mot renard, et non pas sur le renard lui-même, et sur le mot désinvolture, et voilà, j'ai écrit un petit machin. Voilà, le renard, la renarde sont bien connus pour leur apparente ruse, leur intelligence de résistance, et surtout de résistance aux humains et aux autres chiens. Sa manière à lui et à elle, renard, d'être là, dans un coin de rue au fond du jardin, et de ne pas être là à la fois, furtif sans être peureux. Ce qui me marque et ce qui me rend le renard et la renarde rayonnante et heureuse, c'est cette extraordinaire désinvolture qu'il et elle semblent afficher. La désinvolture, c'est cette manière inhabituelle d'être dégagée de toute contrainte, voire de tout code social, de toute convention, et de porter l'habit de la liberté et de l'élégance en même temps. Pas celle de l'habit qui luit, mais de l'allure de l'apesanteur, L'apesanteur. Il y a dans la désinvolture une espèce d'inconvenance qui froisse, non seulement l'ordre établi, mais l'esprit de bourgeoisie cadenassant, tous les corps, tous les sexes, toutes les voix. Et cette désinvolture, souvent, elle agace, et elle agace ce qui fait sens. Moi, ce que j'aime dans le renard et la renarde, c'est l'impertinence d'être au moment de l'apparition ce que personne n'attend ni ne désire, dans l'abandon du reste du monde. Le renard et la renarde, c'est ceux qui sont apparus à ma fenêtre un jour, pendant qu'il y avait un garçon qui était en train de me couper le flux sanguin avec sa gueule et son tempérament, et ce renard ou cette renarde est passé devant ma fenêtre. Ça m'a permis en un instant de le dégager de mon cœur, de mon corps et de la maison. Puis il y a un autre renard ou une autre renarde qui est au fond d'un jardin, d'une maison inoccupée que je cherchais à pénétrer, faute de toit ce soir-là, qui est rentré par un vasistas dans la maison. Le vasistas était ouvert. Ça m'a permis de passer une nuit dans le moins froid. Et puis c'est une autre renarde ou un autre renard qui fut si désinvolte qu'un jour, au matin, il me renversa en butant contre mes tibias. Et ça me provoqua une telle stupeur, et entre le garçon d'ailleurs, encore un, qui était en face de moi à ce moment-là, qu'on a fini par s'embrasser, ça a duré quelques années, qu'on s'embrasse. D'ailleurs, était-ce une renarde ou un renard qui, pendant tout ce temps-là, apparaît, disparaît ? Est-ce que c'est le même, finalement, ce renard ou cette renarde qui réapparaît ? J'ai en tout cas une familiarité qui baigne dans le toupet en pensant à cette espèce de goupil, désinvolte donc. Lui ou elle, indifférent, indifférente au temps et à l'espace, qui me frise la nuque avec son intempestive rémanence. Et Renard et Renarde, qui es-tu aujourd'hui ? À qui me fais-tu penser, en fait ? Eh bien, à ce couple qui, entre les bombes lacrymogènes, deux charges de flics armées jusqu'au sang dans une rue, peut-être au Chili ou au Venezuela, peut-être que nous y avez-vous vu cette image, ce couple qui danse un tango, ils sont masqués, et ils dansent, il y a une buée, une fumée et presque la révolution visible, et ils dansent. Tandis que les fumées et les cris s'entremêlent, Renard et Renarde dansent. Peut-être que Renard et Renarde aussi, c'est l'identité de Lesha Evans. Peut-être avez-vous vu aussi cette femme qui porte une robe à fines bretelles, des lunettes sur son nez, et elle croise les bras devant 45 flics. Peut-être avez-vous vu cette femme tenir ses bras et son regard de Renarde face à ces gens-là. C'était à Charlottesville, il y a 4 ans. Et puis Renard, Renarde, ton nom étymologique dit à la fois conseil et force. Alors s'il te plaît, Renard, Renarde, jappe encore une fois pour moi, avec ton museau allongé, avec le fait que tu sentes le vent tourner, que tu n'aies jamais peur, même les oreilles dressées. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai vu un renard ou une renarde. Je travaille dans une bibliothèque, et à un moment, on avait fermé la porte parce que c'était l'heure de fermer la porte, et il y a quelqu'un qui sort de la cave. C'était un homme sans abri, qui s'était mis là pour se réchauffer près de la chaudière. Et en fait, il n'a pas parlé, il m'a juste fait un geste pour dire « Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte ?» Mais en fait, il ne m'a pas parlé. Puis il est reparti. Alors ça m'a fait penser au renard et à la renarde. Et parce que je parle de cette personne, je voudrais mentionner une application qui s'appelle Surviving Brussels, une application gratuite que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Et en fait, Surviving Brussels, ça dit, si vous êtes face à quelqu'un qui, a priori, est sans abri, ou parce qu'il vous demande ou elle vous demande, vous pouvez situer tous les endroits pour chercher un endroit pour se réchauffer, pour papoter, pour boire un café suspendu, pour prendre une douche, etc. Donc voilà, je termine mon renard et ma renarde par Surviving Brussels, une petite application pour tous les gens qui ont des smartphones. Voilà.
Merci, Kenoyemi, pour ce texte, pour l'engagement qui est toujours présent dans ce que tu viens nous dire. Et je ne sais pas si c'est le même renard ou la même renarde, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que tu la croiseras, je pense qu'elle aura des choses à te dire. Ça, c'est sûr et certain. Je te propose d'ailleurs de poursuivre sur un petit quelque chose que tu as eu envie de nous faire entendre. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça.
Tousse, si le renard tousse, lui faut de la mousse, douce, 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 mousse, 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 si le renard tousse, lui faut du sirop, mais l'en faut pas trop.
Et voilà, c'était Anne Sylvestre, autant féministe que renarde, bien sûr. Et donc, je passe la parole à Kenoy Roxane.
À merci. Ah, bah, c'est bon de parler après ça. Bah, moi, c'est pas si loin. Hein. Le renard, ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Et il y a plein de petites choses qui résonnent avec ce que tu viens de raconter. Même si le souvenir en lui-même, il était un peu particulier, il était un peu malsain. Je sais pas si vous avez ça avec certains souvenirs d'enfance, mais c'est un peu un. Je sais pas, il y avait un côté un peu comme du plaisir, un peu sadomaso. Je sais pas si c'est le plaisir de la peur ou de la cruauté, mais voilà, c'est un, ça vient de, donc du texte, le roman de Renard, qui est quand même un peu un gros morceau dans la littérature française. Et bah voilà, on aura l'occasion d'entendre un peu le passage qui m'a marqué, qui est un peu le seul passage dont je me souvenais d'ailleurs. Et alors le roman de Renard, du coup, bah, je suis retournée un peu regarder, et donc j'ai dû apprendre ça à l'école, hein, j'imagine. C'est un grand ensemble disparate de récits animaliers, qui ont été donc composés au Moyen-Âge, en François, au XIIe et XIIIe siècle, et qui relatent les aventures du malin goupil appelé Renard. Ce qui d'ailleurs donnera son nom actuel à l'animal, qui s'appelait donc Goupil. Alors le roman de Renard, donc, c'est de la littérature bourgeoise du Moyen-Âge, par essence donc malicieuse, pittoresque et le plus souvent réaliste, qui repose donc sur la critique sociale des classes dominantes, incapables entre autres de nourrir les petites gens. Et on attaque aussi largement le clergé, méprisé, ridiculisé. Alors, selon certaines interprétations, je me suis un peu intéressée à la question, Renard, dans ces récits, ça représente justement le petit peuple, qui est donc toujours prêt à mille jongleries pour survivre. Donc pas pour rien que le Robin des Bois soit campé par un renard chez Disney. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et alors, au passage, ça m'a fort intéressée, je découvre que la figure de renard a été vue par Jung et Paul Radin comme un modèle de ce qu'ils appelèrent le fripon divin. Alors, j'avais jamais entendu parler de fripon divin, j'ai trouvé ça très beau. Et moi qui adore le clown, ça m'a évidemment interpellée. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce fripon ? Alors, le fripon, ou farceur, ou trickster en anglais, c'est un personnage mythique qu'on retrouverait dans toutes les cultures. Alors, pour les anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, eux, ils utilisent plutôt le terme de décepteur, du moyen français, celui qui trompe, qui trahit. Et donc, par exemple, le fripon, c'est le gnome ou le lutin des contes, mais aussi coyote, dans la culture des populations natives des Amériques, ou encore Loki, le dieu de la discorde dans les religions nordiques, ou Till l'espiègle, dans la littérature allemande. Bon, moi, je songe à Ulysse dans un tout autre registre. En tout cas, en général, c'est plutôt des mecs. Hein. Alors, ce fripon divin, c'est une sorte d'individualiste solitaire qui contemple les institutions telles que des entités étrangères. Il est un peu en marge. Alors, il ne laisse personne indifférent, il joue des tours pendables, et l'humour est son arme de prédilection. Même si celui-ci peut être cruel aussi. Il s'agit d'un être fruste et rusé, plein d'innocence et de convoitise, qui enfreint toutes les règles, commet toutes les maladresses, déclenche toutes les catastrophes et tombe dans tous les pièges, y compris ceux qu'il a tendus lui-même. Alors pour Jung, ce fripon divin n'est pas seulement une figure du folklore, mais plus encore, il est une composante de notre âme, rien que ça. L'anthropologie nous révélerait que, je cite, « nous avons tous un enfant en nous-mêmes », et c'est ce que les traditions de nombreux peuples ont ainsi exprimé. Cependant, la notion de fripon et d'enfant divin ne se recouvre que partiellement. Et d'une certaine manière, le fripon est le double, l'ambivalence, la part d'ombre de l'enfant divin. Je cite « Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. » Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Merci Jung, que je cite donc tel que repris dans l'ouvrage L'âme et la vie. Alors, pour en revenir à mon souvenir d'enfance quand même, après ce long détour théorique, alors, il s'agit du récit du coq Chantecler, que Renard veut évidemment toujours croquer. Et j'y ai appris le mot pelisse, que je ne connaissais pas. Et la pelisse, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une veste doublée de fourrure. Un mot un peu ancien, et qui pour moi donc est pour toujours mêlé à ce souvenir, et donc à un étrange plaisir de dévoration et de peau qui avale. Alors j'ai retrouvé le texte sur internet, j'étais toute contente, que j'avais écouté à l'époque sur des cassettes audio au moment de m'endormir.
Deuxième aventure. Comment Renard entra dans la ferme de Constant des Noix. Comment il emporta Chantecler et comment il ne le mangea pas.
Alors Chantecler est censé surveiller la cour de la ferme pour prévenir les méfaits du goupil. Mais voilà qu'il se laisse involontairement aller au sommeil.
Alors, il est visité par un songe étrange. Il croit voir un objet qui de la cour s'avance vers lui et lui cause un frisson mortel. Cet objet lui présentait une pelisse rousse, engoulée ou bordée de petites pointes blanches. Il endossait la pelisse, fort étroite d'entrée, et, ce qu'il ne comprenait pas, il la revêtait par le collet, si bien qu'en y entrant, il allait donner de la tête vers la naissance de la queue. D'ailleurs, la pelisse avait la fourrure en dehors, ce qui était tout à fait contre l'usage des pelisses. Chantecler raconte son rêve à sa compagne, la Géline Peinte. Eh bien, tout cela, dit sérieusement Peinte, ce n'est que songe et tout songe, dit-on, et mensonge. Cependant, je crois deviner ce que le vôtre peut annoncer. L'objet porteur d'une rousse pelisse n'est autre que le goupil, qui voudra vous en affubler. Dans la bordure semblable à des grains d'ivoire, je reconnais les dents blanches dont vous sentirez la solidité. L'encolure si étroite de la pelisse, c'est le gosier de la méchante bête. Par elle passerez-vous et pourrez-vous de votre tête toucher la queue dont la fourrure sera en dehors. Voilà le sens de votre songe. Et tout cela pourra bien vous arriver avant midi. N'attendez donc pas, croyez-moi, lâchons tous le pied, car je vous le répète, il est là, là dans ce buisson, épiant le moment de vous happer.
Mais le coq est trop fier, il a déjà retrouvé sa confiance et il se moque de sa compagne peureuse.
Peinte, mamie, voilà de vos terreurs et votre faiblesse ordinaire. Comment pouvez-vous supposer que moi, je me laisse prendre par une bête cachée dans notre parc ? Vous êtes folle en vérité, et bien fou celui qui s'épouvante d'un rêve. Allons, allons, ma toute belle, assez de caquer comme cela.
Or, évidemment, c'est elle qui avait raison. Et le goupil, en effet, attrapera le prétentieux coq. À force de flatterie d'ailleurs, ce qui n'est pas sans rappeler un autre oiseau sur un arbre perché. Le goupil encourage donc le coq à chanter mieux que son cousin, qui atteint apparemment une grande virtuosité parce qu'il ferme les deux yeux. Alors piqué au vif, Chantecler finit par lui aussi fermer les yeux pour pousser son chant, et Renard évidemment n'attendait que cela pour attraper dans sa gueule le cou du coq. Pendant la fuite, sous les clameurs des poules et du fermier, Chantecler parvient encore à articuler quelques phrases rusées pour à son tour provoquer le goupil. « Et quoi ? Tu vas laisser le fermier t'insulter ainsi sans lui répondre ?» Et le goupil tombe dans son propre piège en rétorquant au cri du fermier et en laissant échapper sa proie. Alors, je ne résiste pas encore à évoquer une jolie petite analyse pour conclure par Pierre Bureau, bon, j'ai trouvé ça sur Internet, hein, qui parle des valeurs métaphoriques de la peau dans l'ensemble du roman de Renard, où le goupil parvient systématiquement, en gros, à se dérober et sauver sa peau. Et il va jusqu'à établir un rapport entre la peau et le texte. Donc sauver sa peau pour Maître Renard, bah, n'est-ce pas souvent la sauver par le langage, par la parole, flatteuse ici, provocatrice ailleurs. Donc le langage comme arme de survie, des hors-la-loi peut-être. Petit
merci,
morceau.
Merci que nous, Roxane. Mmh.
Nous allons bientôt laisser la parole à deux quenouilles. Et en attendant, on va quand même s'octroyer le plaisir de vous diffuser une petite sélection qui a été choisie par quenouille Roxane.
D'ailleurs, je vais peut-être l'introduire comme ça pendant l'intro.
Tu nous en parles un peu, moi je ne connaissais pas du tout. Donc,
Alors, donc, après le morceau en soi, je ne suis pas sûre que c'est un rapport direct, mais moi je l'ai redécouverte. Donc c'est Billie Eilish, Bury a Friend. Et c'est une des musiques que j'ai entendues en regardant une série allemande toute neuve là, qui s'appelle Nous, la vague. Bon. Je ne vais pas dire que c'était merveilleux, mais c'était quand même très jouissif, puisque c'est une bande de jeunes qui reprend goût à la vie en commettant des actes militants. Tu peux vraiment lancer la musique, parce qu'il y a vraiment du temps de silence au début. Et donc cette bande de jeunes voilà, commet des actes plutôt symboliques, hein, ils ne sont pas trop violents. Enfin, justement, ça pose toutes ces questions-là, mais comment on enfreint ou pas les règles. Et en tout cas, voilà, c'est pour dénoncer les injustices et les dérives du monde qu'on leur propose, évidemment. Et alors, l'élément déclencheur, donc j'arrive à mon goupil.
C'est Billie comment ?
Billie Eilish.
Billie Eilish, d'accord.
Ouais. Et donc l'élément déclencheur de cette bande, celui qui va un peu rassembler les troupes, bah, c'est un charmant jeune homme qui s'appelle Tristan Brock, bon, mon allemand est déplorable, et ce jeune homme porte justement un tatouage d'un kitsune. Un kitsune, c'est le renard japonais, dont je pourrais aussi vous parler longtemps, mais parce qu'apparemment on ne trouve pas mon morceau. Mais donc voilà, il a un renard, et je trouve ça rigolo que ce soit un espèce de petit rebelle, Robin des Bois. Et que paf, il a justement un petit renard tatoué sur son dos, qui est très joli. Bon, si on n'a pas Billie Eilish, ma foi, c'est pas très grave. J'avais surtout envie de parler de ma série, moi.
Ouais, donc, ouais.
Au pire du pire.
Allez, que nous, il y a Aliette. Kitsune, c'est également le nom d'une.
Ça fait déjà 2 minutes que.
Non, pas alors, c'est que ça marche pas, parce que mon intro, c'était 20 secondes. Bah, écoute, passons.
Oui. Non, mais par contre, je voulais juste penser à la peau de renard. Donc, c'est quand même des éléments. Constitutif de ton, c'est pas ton souvenir d'enfance, mais en tout cas de cette voilà. Et bah, il s'avère que ça m'a fait penser à cette publicité. Là, je viens de la retrouver sur le net. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un défilé de mode. C'était une pub Greenpeace contre l'usage des animaux dans la fourrure et aussi la vivisection. Enfin, c'était vraiment une pub hallucinante. Et donc, il y avait ce défilé de mode avec des espèces de grandes dames, bah, vraiment la mode des années 80, très très grandes, très fines, hein, vraiment, etc. Le canon de beauté. Et puis elles ont des fourrures autour d'elles. Et puis au moment de tourner sur la catwalk, elles se retournent et il y a du sang qui sort des animaux et qui éclabousse toute la grande bourgeoisie, aristocratie, enfin toute la classe. Vous vous souvenez ou pas de ce truc ?
Ouais.
On le mettra sur la page des quenouilles pour que les gens aient un peu mal, quoi.
aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
En fait, vous ne nous avez pas entendu, mais pendant la chanson, on avait une super conversation que vous allez super louper.
Mais tellement.
Sur la désinvolture, la différence entre désinvolte et dilettante.
Je m'en foutiste ouais. Et dilettante.
Du coup, c'est un mauvais résumé. Même,
et on aurait presque pu crier « Soyons désinvolte, n'ayons l'air de rien ».
Mais bon, après...
Ouais. Parce que j'ai revendiqué à mon habitude qu'on redéfinisse un peu les termes du débat.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Je me suis sentie perdue face à la désinvolture. Ouais.
On peut faire une encyclopédie du renard.
Mais donc, mais sans déconner, on peut on juste
peut-être. Oui, tu m'as expliqué de manière assez.
Je t'ai pas expliqué.
Tu m'as rappelé.
Je t'ai sensibilisé à ma notion de la désinvolture, qui pour moi est une valeur morale, mais au sens propre et vertueuse. C'est-à-dire que pour moi, la désinvolture, c'est vraiment l'air de ne pas y être, et tout autant y être très présente. Hein. C'est ce rapport que je citais dans le texte, un peu de. À la fois d'être léger et à la fois d'être extrêmement présent. Et donc ce côté-là, moi, ça me... Sans être écrasant, sans fierté, enfin, etc. Désinvolte, c'est vraiment passer là, mais être visible comme une figure apparente qui marque la rétine, quoi. Donc voilà, ouais, c'est la désinvolture. Après, c'est aussi un état d'esprit, la désinvolture.
Oui.
Pour moi.
Ça m'a renvoyé quand tu nous as fait ce texte magnifique d'introduction sur le renard et cette espèce de désinvolture, ce fait d'y être justement et de n'avoir jamais peur. Mmh. Et c'est vrai que, d'aussi loin que je me souvienne, toutes les apparitions des renards, que ce soit des renards estropiés, que ce soit un renard qui s'est approché du barbecue, mais vraiment, il est venu à 2 mètres pour venir quémander un morceau de saucisse, que ce soit un tout vieux renard dans un moment... vraiment étrange pour moi, vu à 50 mètres à l'orée d'un bois, un vieux bazar tout gris, quoi, pas la pelure flamboyante. Et à chaque fois, c'est. Ils savent très bien que t'es là. Ils te regardent, ils se plantent, ils bougent pas, c'est ok, j'ai pas. j'ai pas bougé pour toi, tu fais avec ma présence et point. Et pourtant, il n'est pas nuisible, il n'est pas agressif, il n'est pas peureux. Il y a vraiment quelque chose de,
c'est furtif, de la présence. Mais pas peureux, ouais, tout à fait.
Mais peut-être que c'est aussi, il n'est pas là où on l'attend. Et comme, et moi, c'est parce que moi, la désinvolture, ça m'évoque très fort un reproche qu'on peut faire, par exemple, aux enfants ou aux jeunes à l'école. Il est désinvolte, il a l'air d'être là, mais que ça, il faut témoigner, même si c'est fin, il faut témoigner d'être là, à sa place, d'être intéressé, d'être là où on t'attend. Il faut pas que t'aies surtout pas l'air de penser à autre chose. Moi, ça me fait penser un peu à ça.
Oui, ça rejoint attitude. Le mot, tout, on l'a dit aussi, mais de dilettantisme, quoi, d'être dilettante, voire même d'amateurisme, en fait, hein, de se dire, bah voilà, en fait, on touche à quelque chose, mais on n'y touche pas vraiment. Alors pour moi, c'est pas du tout ça. C'est y être complètement et pas montrer qu'on y est complètement. Enfin, c'est, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'une finesse, en fait, d'intelligence. Ouais.
Tu parlais d'école, Quenouille Valentine. Ça me ramène à Potam Rouge ce soir. Oh. Notre toute jeune Quenouille.
Peut-on entendre la voix de Potam Rouge dans le micro rouge? Alors oui, moi, j'ai voulu venir avec Potam Rouge parce que, comme le mot, c'était renard, j'ai pensé que Potam Rouge, qui est encore proche de l'enfance, avait des choses à nous raconter. Bonsoir, Potam Rouge.
Bonsoir.
Alors voilà, Potam Rouge et moi, on s'est raconté des histoires ensemble et souvent c'est moi qui racontais, mais parfois Potam répétait, car Potam Rouge aime bien revoir les histoires, aime bien répéter les histoires. Donc on a pensé aux histoires de renard qu'on a vues ensemble. Est-ce que tu peux les rappeler vite fait, même si on va pas toutes les raconter?
Alors en premier, il y a Mr. Fox. Ensuite, il y a Rox et Rookie.
Parle dans le micro, s'il te plaît.
N'aie pas peur.
Il y a Mr. Fox, il y a Rox et Rookie, il y a Robin des Bois, il y a Le Corbeau et le Renard. Et il y a aussi un livre, Le Grand Méchant Renard.
Ouais, celui-là, c'est celui dont on parlera à la fin. Ce sera notre petite conclusion. Donc, et on avait aussi pensé à Shipper, Swiper,
Dora
l'exploratrice. Il y a aussi un renard, là. Donc, beaucoup de renards dans nos enfances. Et alors, moi, Rox et Rookie, c'est genre le seul dessin animé, je crois, que je suis allée voir au cinéma quand j'étais enfant, avec Elliot le dragon. Voilà. Donc, il y en a deux. Alors, c'est un peu bizarre pour Potam Rouge. Pourquoi ? Parce que t'en regardes deux à la minute, toi, en fait, des dessins animés et des films. Donc, alors, ce que je voudrais d'abord, c'est que tu nous... Hier soir, pour préparer l'émission, on a re-regardé Mr. Fox. Et on va un peu vite fait résumer l'histoire.
Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est quoi ? Donc, c'est un film de Wes Anderson.
Tiré de ?
De Roald Dahl. Ça, on l'a pris hier, hein. Que c'était d'un livre de Roald Dahl. Et donc, c'est l'histoire d'un renard. Voilà, il a. Donc, dans le film, les animaux parlent. Hein. Et donc, il a sa petite vie. Il déménage dans un grand arbre. Mais avant.
Vas-y.
Mais avant, il était voleur de poules. Et ça lui manque assez. En fait, le risque lui manque beaucoup. Et donc, il va décider de voler des poules des oies. Et du cidre à trois
humains.
Oui, trois humains. Voilà. Donc, c'est...
Les trois seuls humains du dessin animé.
Non, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres humains. Et donc, il fait ses vols de poules. Et donc, à la fin, évidemment, les humains sont assez fâchés. Et donc, ils vont déterrer son arbre. Il va commencer à creuser. Et après, il va se passer plein d'autres aventures. Voilà.
Mais pas de spoiler, quoi.
Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'est pas un dessin animé. En fait, on n'explique pas bien. C'est un... Je sais pas très bien comment ça s'appelle. C'est des petites figurines animées. Ça doit être un travail incroyable de faire ça. On sait même pas comment est-ce qu'on peut encore y arriver. Est-ce que ça prend des années? Est-ce que ça prend des milliards d'années? Voilà. Alors, moi, j'ai noté deux, trois trucs qui me semblaient intéressants par rapport à l'idée du renard. Et après, je voudrais que le franc-parler de Potam Rouge s'exprime dans ce studio sur la question centrale qui est: est-ce que les renards dans les contes pour enfants sont féministes ou pas? On n'aura pas une énorme analyse, mais c'était le débat qu'on a eu un petit peu en préparant l'émission. Donc, Mr. Fox, qui est donc le héros, dit être un voleur de poules, c'est prendre des risques. Donc ça, je vais vous donner comme ça des petites phrases et on pourra les méditer. Moi, en tout cas, ça, je vais les relire et je crois que certaines, je vais même les écrire, je sais pas, moi, j'écris des phrases parfois dans ma cuisine et je les lis régulièrement. Donc, parce que Mr. Fox, il a une femme, Madame Fox, et ils sont plutôt pacifiques, hein, tous les deux, il n'y a pas d'énormes conflits. Mais quand même, il y a des moments où Madame Fox dit à Mr. Fox, s'il se passe ce que je crois qu'il se passe, ça va mal se passer. Et là, c'est très clair. Et moi, j'aime bien ce genre de clarté où on n'est pas obligé de tout expliquer, mais les choses sont dites. Donc voilà, les problèmes de renard commencent parce que, comme dit Madame Fox, Mr. Fox n'écoute jamais personne. Donc là aussi, je me dis que c'est peut-être intéressant pour savoir comment est-ce qu'on peut être renard ou renarde. Là-dessus, nous ne trancherons pas. Donc j'ai noté ça dans un petit carnet. Il y a aussi... une chose importante, qu'est-ce qu'on fait à nous quand on est piégé? On creuse!
Ah oui!
Donc en fait, on creuse beaucoup dans le dessin animé. Et je viens de dévoiler ton identité qui était pourtant sagement cachée derrière ton pseudonyme. Mais pour ce qui est de creuser, voilà. Alors, Madame Fox dit aussi à un moment à Mr. Fox, je vais me mettre en colère maintenant. Et elle a l'air de tout sauf d'être en colère. Et ça, j'aimais beaucoup. Cette espèce de colère qui n'est pas du tout agressive. Et après, un grand débat aussi à avoir. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Parce que je suis un animal sauvage. Donc là, moi, je la retiens et j'aimerais bien pouvoir la ressortir à l'occasion. Je ne sais pas très bien à qui.
Tout le temps.
Mais voilà, c'était une petite clé de vie importante. Et il y en a une autre qui est pas mal du tout, je crois. Ah oui, ça c'est un petit peu à la fin. J'ai trouvé ça quand même chouette. Alors on est dans un travail pour enfants. En fait, Wes Anderson, il fait des films qui sont un peu pour tout le monde. Roald Dahl, c'est plus pour les enfants. Mais il faut jamais oublier d'être reconnaissant et attentif aux autres. Et j'aimais bien dans cette histoire parce que il y a tout un truc dont on a parlé d'abord. Potame Rouge, c'est que Mr. Fox, il est un peu égoïste.
Ah oui, il est très égoïste. Déjà, au début, c'est vraiment pas un bon père parce qu'il y a le cousin, donc du fils de Mr. Fox qui arrive et directement Mr. Fox préfère ce cousin à son propre fils. Il est pas non plus un très bon mari. C'est pas un très bon animal parce que à cause de lui, tous les autres animaux ont été obligés de se réfugier sous terre parce que il a mis en colère donc les trois humains principaux. Donc oui, il est très égoïste. Il ramène toujours tout à lui. Par exemple, à un moment. Un blaireau fait un toast et lui directement il se lève et il ramène encore une fois à lui. Et ça c'est très souligné dans le film.
Oui mais après on s'est quand même dit que qu'est-ce qu'il fait après?
Alors après il est prêt à se sacrifier pour sauver tous les animaux. Et ensuite oui après on voit très bien qu'il change, qu'il a compris qu'il faut pas être égoïste, il faut aussi un peu penser aux autres parce qu'il est pressé.
Et ils font un plan en fait, ça j'ai bien
ouais,
aimé.
Ouais, ça c'est très marrant, à la fin ils font tout un plan avec tous
attention
les...
Attention au spoiler hein.
Ah parce que vous allez le regarder, fin, donc, vous allez bien le sûr. Regarder.
On ah, ouais, divulgage,
ouais, ouais, c'est ça. Faisons-le, ouais après en fait c'est plus C'est pas que l'histoire n'est pas intéressante, elle est super intéressante, mais ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est le travail d'animation aussi, et tous ces dialogues, en fait. Moi, c'est le genre de truc que j'aimerais apprendre par cœur, parce qu'il y a des super échanges, les personnages sont tous... Tout est super drôle, en fait. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très, très, très drôle. On a beaucoup ri.
Et puis, moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que chaque personnage a un peu son trait de caractère, et on arrive bien à accrocher à chaque personnage. Par exemple, il y a l'opossum, qui est très, très, très marrant. Il y a plein d'animaux, il y a aussi les trois humains, eux ils sont pas très gentils mais on voit quand même qu'ils ont chacun leur trait de caractère.
Il y en a un qui fait très peur.
Ah oui, il y en a un qui fait très 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 peur.
C'est celui qui, alors là-dessus c'est vrai que ça fait aussi réfléchir à notre condition d'humain parce que on n'a pas l'impression que c'est exagéré parce qu'évidemment comme le renard a volé, l'humain décide de traquer le renard pour l'attraper. Et donc, il détruit totalement un arbre. On va se dire, allez, arrachons un arbre. Mais il commence à creuser aussi, l'humain. Mais alors que les animaux creusent avec leurs petites pattes et ça fait des petites galeries et ça donnerait presque envie, là, c'est un peu la catastrophe. Mais voilà, c'était un peu une évocation légère et improvisée de Mr. Fox, le conte de Roald Dahl, revu par Wes Anderson.
Et là, en anglais, c'est Meryl Streep qui fait la voix de Madame Fox. Donc, je pense que. Et quoi, féministe ou pas féministe, en fait? C'est quoi cette question lancée comme ça sans
réponse?
Au moins une hypothèse, quoi.
Alors, moi, je sais pas trop parce qu'il y a quand même la mère. Au début, on voit quand même que le père, il est assis. Il y a une scène là où il mange. Et donc, le père est assis. La mère lui amène à manger. Donc, c'est un peu le cliché de. Voilà, le mari va ramener de l'argent à la maison, la femme au foyer. Il n'y a pas non plus énormément de personnages féminins, par exemple dans les fermiers. Donc les fermiers, c'est les humains. Il y a aucune femme. Je crois que la seule femme humaine, c'est une journaliste et la femme d'un des humains fermiers. Donc voilà, il y a la plupart des femmes sont un peu sous-représentées, si je peux dire. Mais le film n'est pas non plus sexiste, quoi. On peut pas dire qu'il est féministe, mais il est pas sexiste.
Vous connaissez le test d'Alison Bechdel ou pas?
Oui. Là, je crois
est-ce qu'il passe le test?
Non, je ne pense pas.
Vous connaissez ou pas les connus?
Ouais. Non, du tout.
Donc c'est une entre guillemets sociologue qui j'ai repris les trois critères. Donc pour faire passer un test pour savoir si c'est un film féministe en tout cas, mais il y a plus de critères maintenant parce que c'est déjà dans les années début des années 2000. Et donc il doit y avoir au moins deux femmes nommées, c'est-à-dire nom et prénom dans l'œuvre. Et en fait, souvent là, c'est la femme de ou juste un prénom. Il faut que les deux femmes au moins parlent ensemble, mais surtout qu'elles ne parlent pas d'un homme. Et alors ça, malheureusement, dans beaucoup de films, c'est raté.
Et voilà, dans Mr. Fox, je crois qu'il ne passe même pas la première épreuve, parce que la plupart des femmes sont nommées par le nom de leur mari, par Madame c'est Fox, ça, ouais. Ou alors Madame Blaireau, par exemple.
Oui, mais donc...
Donc
Du coup, c'est quoi le féminin de Blaireau?
Blairel.
Je vois que... Merci, Potam Rouge, pour cette incursion.
Mais oui, et alors quoi et alors...
Sachant que c'est la deuxième fois que Potam Rouge vient ici, mais oui. Sous une autre identité à chaque fois, c'est bien.
Incognito.
Changeant terrisé.
Et alors quoi, ça va transitionner vers du nuisible?
Mais moi, j'aimerais bien un peu de bruit de nuisible.
Ah ouais, vas-y, balance du nuisible. Ouais.
T'es prête?
Ça serait chouette.
Que nous y alliette pour attention.
Alors, nous on l'entend, mais est-ce que ça passe?
Ah oui, ça passe.
Ça passe? Est-ce qu'on l'entend dans les micros?
Je ne sais pas si ça passera très longtemps à nos oreilles, parce que c'est quand même assez impressionnant.
Oh mon Dieu.
Je pense qu'on peut, on peut arrêter peut-être. Allez, hein
c'est... On t'en remet à une adore.
Je pense qu'on n'aurait pas, pas prévenu. On n'a d'ailleurs pas prévenu, si.
Je ne sais pas. Je s'en fiche, mais ouais.
Je pense que c'est difficile. Vous avez...
Oui, on sait pas très bien ce que c'est.
C'est difficile d'identifier.
Tout à fait.
On m'aurait sorti ça comme ça en me disant, oui, ça c'est.
On aurait dû faire un blind test.
Attention,
en fait,
risque, les quenouilles risquent d'être classées dans les nuisances sonores.
Le féminin blaireau, c'est blairotte.
Blairotte.
Non,
c'est trop mignon.
Ouais, on va faire des t-shirts.
Cette manie de vouloir faire des t-shirts.
Les badges et les magnets de frigo et les t-shirts, je pense que c'est l'avenir finalement.
Parfait.
Et donc, est-ce que.
Et donc, nuisance.
Voilà, quenouille, Valentine.
Je voulais
Valentine.
Juste simplement mettre en débat cette catégorie, parce que les renards, on le dit, on trouve souvent quand on cherche un peu autour des renards qui sont rangés parmi les nuisibles. Et du coup, simplement attirer l'attention, parce que cette idée de nuisible, déjà, c'est catégorisé dans certains pays, dans certaines lois, autant qu'on classe des animaux en voie de disparition. On fait aussi des listes de nuisibles. Et on trouve que c'est des listes tout à fait arbitraires, parce que dans certains pays, ne serait-ce qu'au niveau européen, entre l'Allemagne, la Suisse, la France, la République tchèque, on trouve des listes qui sont tout à fait différentes et des animaux qui sont décrétés espèces à protéger dans certains pays sont décrétées nuisibles dans d'autres. Et j'ai trouvé, c'est pas évident de trouver des listes parce que tous les pays ne font pas des lois, mais notamment en France où ils sont quand même le champion pour essayer de catégoriser des trucs, on découvre par exemple que notamment le renard ou le putois sont des nuisibles, mais que le rat d'égout n'y est pas. Donc on se demande un peu, alors qu'on pourrait imaginer que que le rat d'égout, on cherche à s'en débarrasser. Mais alors qu'on sait
reste,
qu'il est utile.
C'est ça la question.
S'il y en a plus, ah, ouais. Mais du coup, c'est assez drôle de regarder les listes. Déjà, on découvre des espèces tout à fait improbables. Et on se rend compte qu'en fait, c'est aussi parce que souvent, c'est des nuisibles pour l'agriculture. Mmh. Et simplement, dans cette catégorie un peu nuisible, parce que ce à quoi moi, ça me fait réfléchir, mais c'est pareil, c'est mon obsession de l'usage qu'on fait des mots. Et en plus, il paraît que c'est une tendance actuelle dans les transformations de la langue actuelle, quand je dis actuelle, c'est-à-dire probablement sur 2 siècles, c'est de substantiver, de prendre
quelle
des...
Quelle métadonnée, quoi,
les évolutions de la langue sont beaucoup plus lentes qu'on ne l'imagine. Et notamment, c'est une tendance à faire de noms, à prendre des catégories, des adjectifs et d'en faire des noms. Et donc, en fait, quand on dit les nuisibles, c'est une substantivation, donc on fait un nom de ce qui est à la base un adjectif. Et surtout, on en fait un usage intransitif. Donc, c'est pas, on dit, normalement, on nuit à quelque chose, c'est nuisible à quelque chose. Et là, ça devient les nuisibles. Donc, on en crée une catégorie. Et simplement, je trouve ça intéressant parce que c'est un mécanisme de langage qui est très fréquent. On évite de dire nuisible à quoi, nuisible à qui. Et donc, en effaçant les
circonstances.
Les circonstances et les personnalités, les éléments qui sont impliqués dans l'interaction, et ben, ça permet un peu de cacher. Ce qu'on essaye, ce que dit vraiment l'usage de ce mot-là et de faire des hiérarchies. Donc en fait, on cache le fait qu'ils sont nuisibles pour un certain type d'activité humaine. Alors là, maintenant, il y a matière à débat. Alors que s'ils sont simplement nuisibles, on ne débat pas. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire qu'on cache on questionne ce qui est de la vie cachée de ceux qui même se cachent pour survivre. Comme par exemple les renards et les animaux en fait en général
oui, jusqu'aux ours
en milieu urbain.
Mais c'est vrai que
c'est d'autant plus frappant peut-être en milieu urbain où en fait il y a plein d'animaux qui vivent et même si on essaye de les voir, on ne les voit jamais.
Ouais. Par rapport à ce mot nuisible, parce que donc on a souvent aussi dans soit la légende urbaine, soit dans les espèces de d'épidémies quand même. On est dans des rapports à l'inconscient collectif qui a de génération en génération cette sensation de possible contamination. Moi, j'ai vécu en Angleterre et les lobbies de tous les chenils et des chasses à courre, parce que enfin, je veux dire, les renards sont encore chassés et en France et au Royaume-Uni avec donc une meute de chiens de plus de 200 chiens, des chevaux et des bonnes femmes et des bons hommes sur leurs chevaux en train de courir pendant des heures et des heures. Enfin, une court pas, mais les chevaux courent. Et puis le renard surtout. C'est un renard, quoi, en fait, hein, qu'ils attrapent, enfin voilà, qui se fait souvent déchiqueter par les chiens par ailleurs. Donc il y a ce côté-là, en fait, très qui entretient en fait une certaine image d'une aristocratie, en réalité, en tout cas d'une élite esthétique presque, je dirais, et économique. Et puis il y a le fait que, en fait, il y a depuis plus de 100 ans, il n'y a plus de cas de rage par le renard. Et pourtant. La quarantaine de 6 mois, quand on essaie de rentrer au Royaume-Uni, par exemple, avec un animal, moi, quand j'ai déménagé de France jusqu'au Royaume-Uni, je devais logiquement mettre mon chat dans un chenil, enfin, dans un refuge, pendant 6 mois.
Wow.
6 mois, c'est énorme dans la vie d'un chat, dans un chien, puis dans la vie des humains aussi, enfin, bon, quand même. Et du coup, tout ça est tourné autour de l'idée qu'il y aurait encore la rage, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il y a de tels chenils, de tels lobbies par rapport à et la chasse et la question de cette quarantaine qu'on ne se pose même plus la question de pourquoi. Et en fait, il n'y a plus de cadrage depuis au moins 100 ans. Enfin, voilà. Et en plus, la plupart du temps, quand quelqu'un est mordu par un chien enragé, ce qui arrive une fois tous les 15 ans, en France par exemple, mais en général, c'est tout à fait. C'est très rare qu'on meure de la rage. Quoi.
Ici, en tout cas.
Oui, bien sûr. Je parle bien d'ici.
Ouais, bien sûr.
Il y a d'autres endroits, etc. Ouais. Enfin, voilà. Et juste, je pensais à une image qui m'avait frappée dans un film, qui était un film documentaire à Bucarest, où il y a des meutes de chiens. Dans la ville qui sont extrêmement resauvageonnés, je sais pas comment on pourrait dire. Et en fait, à un moment, les renards et les chiens font alliance. Et ça, un peu comme dans l'armée des 12 singes, il y a un moment où j'aime bien que l'urbain s'éteigne. L'humain avec, du coup, mais quand même. Et puis du coup, qu'il y a cette espèce de sauvagerie dont on parlait tantôt qui reprend force. Bon, c'est pas cool pour avoir un enfant à Bucarest, mais
de se promener dans la ville. Pas besoin d'aller si loin, parce que tout près d'ici, vers le rond-point Mézières, il y a un complexe d'habitation où j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à parler avec les habitants, rue Evenepoel. Et à force de discussion, ils critiquent beaucoup là où ils habitent. Et à force de discussion, on s'est rendu compte un peu au hasard que tous, ils avaient un lieu qui les fascinait entre tous ces blocs, qu'il y a un lieu qui a été un terrain de pétanque et qui en fait est abandonné parce que pas entretenu. Et en fait, tu te rends compte que tous les habitants fantasment un peu cet espace qui pourrait être un lieu merveilleux mais qui a abandonné et chacun y voit l'un une balançoire, l'autre des plantes. Enfin, c'est un peu le lieu de tous les imaginaires. Et la dernière histoire qui nous a été racontée sur ce lieu-là, c'est justement une dame qui descendait son petit caniche et qui, dans la nuit, a vu des yeux comme ça. Et en fait, elle a découvert que c'était une tanière de renard. Et donc, elle a vite attrapé son chien parce qu'elle a eu peur qu'il se fasse dévorer. Et depuis, elle n'y va plus. Et du coup, c'est ce lieu tout près d'ici, tout près de chez nous, qui est un peu le lieu de tous les fantasmes où on n'ose pas trop aller. Finalement, c'est l'habitation d'un renard. Et je trouvais ça assez gay.
Allons-y après l'émission.
Moi, j'habitais dans une rue où il y avait, je rencontrais des renards quand je rentrais chez moi le soir. Hein. J'aimais bien. C'était voilà, ça faisait partie de la rue.
Mais t'avais pas de caniche, c'est ça le truc.
Non.
Toi, t'as un golden retriever,
bah oui, c'est ça. J'avais un chat.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitent à Uccle et qui avaient des renards qui se cachaient sous leur cabanon de jardin. Et il y en avait énormément. Et il y en avait une qui avait une renarde qui avait accouché de bébés. Ils allaient les nourrir. Et ils étaient vraiment pas dangereux. C'est ça qui était assez cool. On pouvait limite presque les caresser, certains. Voilà, donc il y en a même à Uccle, des renards, c'est vrai.
Allez, on va
peut-être
annoncer que nous, Delphine...
Voilà, on laisse la parole à Delphine.
Oui, mais moi, j'aimerais bien vous écouter.
Bah, nous aussi, on veut bien t'écouter. Ouais. Ouais.
J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a évoqué Quenouille Aliette tout à l'heure, à propos de ce film animé. Donc, tu as dit, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Parce que je suis un animal sauvage. C'est Monsieur Fox hein, qui disait ça. Je prends la balle au bon vraiment parce que ça me donne envie de me poser la question de c'est quoi le mensonge. Je crois qu'on avait tiré ça, j'étais pas présente, mais c'était un des mots qui avait été tiré. Mentir, c'est quoi? Et ça m'amène très justement à parler de renard, animal totem, mais je vais recontextualiser un petit peu. En avril 2016, je participais à un stage de danse entre femmes sur le thème de la femme sauvage. Et de l'empowerment également, avec une chorégraphe absolument merveilleuse, une femme empathique et très douée qui s'appelle Edith De Paul et qui a lancé la compagnie Les Dancing Women, by the way. Elle a fait un court-métrage que je vous invite véritablement à regarder qui s'appelle Dancing Women, tout court, et qui a eu plusieurs prix. Ça dure, je crois, 20 minutes, c'est vraiment délicat et somptueux. Donc, spéciale dédicace à Edith De Paul, avec qui j'ai eu l'occasion de faire ce stage en 2016. Et suite à ce stage qui a été assez éprouvant, deux jours à aller chercher des choses au fond de soi, on avait fait une sorte d'exercice de taromancie. Et la carte que j'ai tirée, évidemment, est celle du renard. Et elle avait utilisé le tarot des animaux et le jeu des animaux médecine, on peut appeler comme ça aussi. Donc j'aurais aimé donner une lecture symbolique du renard qui représente le camouflage. Donc j'aurais envie de dire cette question à propos du mensonge, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que mentir c'est dissimuler? Est-ce que c'est camoufler? Est-ce que c'est garder pour soi une part de sauvagerie? Est-ce que c'est ne pas dire? Ou est-ce que c'est dire contre l'autre ou garder un morceau pour soi? Et le renard pour moi c'est véritablement cette figure-là, cette figure de celui qui s'adapte, qui peut changer de couleur, comme le caméléon aussi en hiver. J'ai appris ça, que le renard pouvait véritablement changer de couleur au niveau de sa pelure. Pas tous, évidemment, mais il prend des teintes plus sombres pour s'adapter à son milieu. Lorsque le feuillage disparaît en hiver, sa fourrure blanche permet de s'estomper dans la neige, par exemple. Et si on regarde un peu plus près du côté de la médecine de renard, telle qu'elle est énoncée dans cette série de cartes, le renard, c'est l'adaptabilité, l'astuce, la capacité d'observer, de s'intégrer, la rapidité dans la pensée, dans l'action. Donc je ne vais pas lire l'ensemble des éléments de cette carte, mais dire en quoi ça me parle à moi et en quoi j'ai pu m'identifier à ce personnage-là, c'est vraiment pour cette idée de camouflage, de passage de l'ombre à la lumière. C'est un peu comme ce qu'on peut croiser à l'orée des bois ou dans les jardins à Uccle. On ne sait jamais vraiment si on a affaire à un animal qu'on va pouvoir venir caresser comme un chien ou dont il faut se méfier. Il y a une sorte d'ambiguïté toujours et il y a une adaptation du renard à de nouveaux écosystèmes. On les considère comme des nuisibles parce qu'ils arrivent en ville, mais ils arrivent en ville parce qu'on leur permet aussi, parce qu'ils peuvent se nourrir de nos déchets. On leur reproche de venir éventrer nos poubelles, nos poules. Mais au final, il ne fait que passer, et c'est nous qui l'empêchons de passer. Et c'est vraiment un passeur d'ombre pour moi. Et m'identifier à lui, ça m'a permis de mettre en sourdine une certaine sauvagerie, je pense, de me protéger. Voilà. J'aimerais, si c'est possible, passer un morceau d'une renarde qui m'est, qui m'est chère. Je ne saurais pas dire pourquoi elle m'est chère, mais j'ai connu ses premiers albums quand elle n'était pas encore très très connue. C'est une Britannique, c'est Florence Welch et son groupe Florence and the Machine. C'est devenu une espèce de méga, giga renarde connue, enfin, qui fait plein de tours. Elle a une espèce de présence comme ça sur les ondes, dans l'imaginaire aussi, maintenant collectif, je pense. Mais elle me parle. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que je ne sais pas et qui se dissimule, qui m'a toujours parlé chez elle. Elle est fort rouquine, elle est flamboyante pour le coup. Et la renarde, la flamboyance sont quelque part liées aussi à cette idée de sauvagerie. On a toujours quand même diabolisé les roux et les rousses. Sorcière. Et j'aimerais passer un morceau d'elle qui s'appelle Witch Witch. Voilà, c'est parti. On va l'écouter pour 4 minutes 20. Wait and measure in silence and it's an old scar. Envie de nous sauter et danser partout. Donc, pour faire vite, les amis, avant de vous dire au revoir, sachez que l'ensemble des textes, nous allons tenter de les poster sur la page de Radio Panique ou Facebook, en tout cas. Nous allons vous dire au revoir pour ce soir. Je vais laisser la parole à Roxane.
Juste, oui, pour annoncer la rediffusion de cette émission le samedi 21 décembre à 11h et la prochaine émission sur le mot parenté.